Un jour de fête et de joie pour les chrétiens du monde entier. C'est aujourd'hui le jour de Pâques où l'on fête la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. Et hier, dernier temps fort de la Semaine Sainte, les vigiles pascales partout en Calédonie, à la cathédrale de Nouméa, une vingtaine d'adultes ont fait leur entrée dans l'église catholique. C'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, extrait dans ce journal et rediffusion de l'émission ce soir après notre édition de 17h45. Volodymyr Zelensky répond à son homologue russe Vladimir Poutine qui a ordonné à ses troupes un cessez-le-feu en Ukraine. Zelensky propose d'étendre le cessez-le-feu au-delà des festivités pascales. En métropole, des violences encore contre des agents pénitentiaires. Un surveillant a été visé par un jet d'eau bouillante à la maison d'arrêt de Valence dans la Drôme. Le sport et le football, le Paris Saint-Germain toujours invaincu en Ligue 1. Ce matin, les Parisiens se sont imposés 2-1 sur le Havre. Marseille s'est de son côté imposé 5-1 sur Montpellier. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, cette information qui nous est parvenue un peu avant 11h. Une octogénaire est décédée ce matin dans un incendie à la tribu de Toit-aux-Roues à Yatay. Les pompiers sont toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes qui ont ravagé l'habitation de la victime. Il n'y aurait pas d'autres habitations menacées pour le moment. Une enquête va être ouverte pour connaître les circonstances exactes de ce drame. C'est donc aujourd'hui Pâques, la fête religieuse la plus importante pour les chrétiens du monde entier. Pâques qui commémore la résurrection du Christ 3 jours après sa mort. La résurrection qui est l'un des fondements de la foi chrétienne. Pâques est donc un jour de fête, un jour de joie, comme le rappelle l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Soussitinus Ionepovi.
La fête de Pâques, c'est la fête de la joie, de la résurrection. Nous sommes tous ressuscités et vive la résurrection. Puissons-nous être des hommes et des femmes ressuscités pour aller de l'avant, pour proclamer le Christ est vivant et il est parmi nous.
Et hier soir à la cathédrale de Nouméa, le nouvel archevêque de Nouméa a présidé la vigile pascale, dernier temps fort de la Semaine Sainte. Une célébration lors de laquelle une vingtaine d'adultes, les catéchumènes, ont reçu les sacrements du baptême, de l'Eucharistie et de la confirmation. Une célébration forte pour Monseigneur Sionepovi.
C'est une première et c'est aussi une célébration très solennelle d'accueillir et puis de célébrer les sacrements d'initiation à la vie chrétienne. Pour ces enfants qui se sont préparés et qui sont devenus aujourd'hui des enfants de Dieu, qui font partie de la famille. C'est une grande joie, c'est ma première fois. C'est le message, c'est le but de l'annonce de l'Évangile. Il faut proclamer à tout temps, à chaque moment, pour que tout homme, toute femme puisse l'entendre et l'appel à se mettre à cette démarche de conversion. D'où le témoignage de ces catéchumènes qui se sont préparés, des débutants et des recommençants, et qui aujourd'hui sont devenus des adultes dans le Christ.
Hier soir donc à la cathédrale, une vingtaine d'adultes ont fait leur entrée officielle au sein de l'Église catholique. Un moment très fort pour ces hommes et ces femmes qui attendaient pour certains depuis de très nombreuses années.
Je m'appelle Laurence, j'ai 51 ans et ça fait 40 ans que j'attends ce moment. C'est un renouveau pour moi, donc c'est que du bonheur. Les trois sacrements ce soir, oui, j'ai l'impression de renaître en fait. C'est que du bonheur.
Nathan, j'ai 24 ans. Parce que c'était un chemin qui m'appelait et j'ai décidé de passer le pas accompagné par mes parents et parce que selon moi c'est le chemin. Donc j'ai décidé de le suivre pleinement.
Pourquoi à cet âge-là ?
Parce que c'est à cet âge-là que ça m'a appelé. Voilà, je ressentis des choses à cet âge-là qui m'ont fait me dire que je devais faire les démarches. J'ai reçu le baptême, la communion et la confirmation. Et c'est une grande fierté, une grande joie. Je suis très ému et très content d'avoir pu faire ça.
Leslie, j'ai 26 ans.
Alors pourquoi est-ce que tu as décidé de prendre les sacrements aujourd'hui ?
Parce que j'avais envie, le baptême, communion et confirmation.
Et c'est important pour toi ?
Oui, pour moi, pour ma vie et pour mes enfants après.
Des propos recueillis hier soir à la cathédrale de Nouméa par Kélinda Boicou. J'ajoute que ce matin, les messes de Pâques ont été célébrées dans toutes les paroisses de Nouvelle-Calédonie. Pâques est donc un jour de fête pour les chrétiens du monde entier. En Europe, notamment au Vatican, les veillées pascales se sont déroulées tôt ce matin pour nous. À la basilique Saint-Pierre, c'est le doyen du collège des cardinaux, le cardinal Giovanni Battistare, qui a présidé la vigile pascale en présence de très nombreux fidèles qui avaient fait le déplacement. Ce soir, c'est à 21h, heure de Nouméa, qu'aura lieu la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Bénédiction qui pourrait être donnée par le pape François en personne. Le Saint-Père quelque peu éloigné des célébrations de la Semaine Sainte puisqu'il est toujours, vous le savez, en convalescence après une longue hospitalisation ces dernières semaines pour une double pneumonie. Malgré l'envolée des prix du chocolat cette année, les chocolateries sont prises d'assaut ce dimanche de Pâques. De nombreux clients ont attendu le dernier moment pour faire leurs achats. Résultat, un peu d'attente, parfois un peu long, mais qu'importe, parce qu'à Pâques, le chocolat, c'est sacré, Léana Colombo.
Et oui, sacré tout d'abord pour les artisans chocolatiers qui fondent beaucoup d'espoir en cette période. Pâques représente tout de même jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires annuel et sacré pour les clients qui, eux, fondent de plaisir. Depuis déjà quelques semaines, les vitrines des chocolatiers s'habillent de lapins, de cloches et d'œufs en chocolat. Mais c'est ce matin que la chocolaterie Morand a enregistré le plus de clients. Et même si la journée n'est pas terminée, Ludovic Panier, co-gérant de la chocolaterie, se dit satisfait.
Ça se passe très bien, nous on est contents, on a des clients, puis bah, tout le monde a le sourire, tout le monde est content, donc ça fait plaisir. Bah, nous on propose de tout, et les clients sont très contents, et c'est vrai qu'ils prennent plein de choses différentes, et voilà, c'est chouette.
Les gens s'y prennent un peu au dernier moment, si je peux dire aussi, parfois.
Vraiment, de plus en plus, c'est vraiment au dernier moment. On a de moins en moins de commandes et je pense que tout est un peu plus en imprévu. Et je pense que ça va être calme demain. Je pense que les gens sont beaucoup venus vendredi, samedi, et puis ce matin, je pense que demain ils vont tous profiter en famille. Mais en tout cas, on est ouvert pour les retardataires, ou les derniers, quoi.
Chocolat blanc, au lait ou noir, pour soi ou pour offrir, tout le monde avait une bonne raison de se rendre chez les artisans chocolatiers ce matin.
Je prends essentiellement pour mes enfants et pour des amis qui sont sur le territoire actuellement, loin de leur famille. Donc voilà, un petit peu de réconfort.
Je vois qu'il y a un peu tout, chocolat blanc, chocolat noir.
Voilà, les deux, le tout. Tout ce que je trouve, parce que je m'y suis pris un peu tard, il n'y a plus trop de choix malheureusement.
On a pris des chocolats pralinés, au chocolat blanc et dedans c'est praliné, c'est les meilleurs.
Alors, on a acheté un œuf au chocolat avec un petit peu de mousse voilà, pour Pâques. Ça va être chouette à manger en famille.
C'est juste pour ouais, ma petite famille. Voilà, les enfants, on a un repas de famille ce midi, donc le repas de Pâques. Et donc voilà, je suis contente d'être là et de trouver ce que je veux en fait.
Donc plus chocolat au lait, hein, je vois.
Ouais, parce que les enfants, ils n'ont pas trop de chocolat noir, quoi. Alors que c'est mieux que pour la santé, mais bon, on fait une exception.
Un petit crochet. Pour moi tout seul.
Pour mes petits-enfants. Ah, des petits paquets tout mignons.
Bon, juste un petit camion de pompiers pour mon neveu et puis ça ira. Ça va, c'est son premier Pâques. On a commencé doucement en lui proposant, en lui faisant goûter des trucs artisanaux, déjà un peu moins sucrés que ce qu'il y a dans les grandes surfaces avec les marques locales.
Et malgré la hausse des prix, plus 200% sur l'achat des matières premières pour les artisans chocolatiers, certains ont décidé de ne pas augmenter leur prix cette année pour que Pâques reste un plaisir accessible à tous.
Et puis Pâques, c'est aussi la traditionnelle chasse aux œufs organisée pour les plus jeunes. Au parc zoologique et forestier, les enfants ont même pu faire une chasse au trésor grandeur nature. C'est en effet une tradition de l'association d'artistes Arcane qui expose au parc et profite de ce dimanche spécial du mois d'avril pour attirer un public familial. Cette année, ce sont 10 œufs d'or qui ont été soigneusement dissimulés entre les plantes et animaux et avec, pour celles et ceux qui les trouvent, une belle récompense. Sylvie est ancienne présidente de l'association Arcane et elle a déjà pu remettre quelques cadeaux ce matin.
On a organisé aujourd'hui ces Pâques, donc une chasse aux œufs. Alors bien sûr, ce n'est pas les œufs en chocolat qui sont cachés dans le parc, c'est des œufs en plastique coloré. Et dès que les personnes trouvent un œuf factice, ils le ramènent ici à l'accueil de l'exposition et on leur donne des œufs en chocolat offerts par la Cabosse d'Or qui sont magnifiques, vraiment des gros lots.
Bah super, on a une gagnante tout de suite là, ce matin, très très rapide.
J'ai trouvé 2 galets et 1 œuf. J'ai trouvé le premier galet dans les escaliers et j'ai trouvé un deuxième caillou dans une plante et j'ai trouvé l'œuf à côté de la cage des corbeaux.
Alors qu'est-ce que t'as gagné ?
J'ai gagné un gros pain au chocolat.
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?
Je vais le manger.
Pas toute seule.
Non, avec ma famille.
Et le parc provincial zoologique et forestier reste ouvert jusqu'à 16h. Dépêchez-vous. Selon notre dernier décompte, il ne reste plus que 4 œufs d'or à trouver. Le haut-commissaire Louis Lefranc était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. C'est la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis l'annonce la semaine dernière de son départ après un séjour d'un peu plus de 2 ans en Nouvelle-Calédonie, Léana.
Effectivement, Louis Lefranc est arrivé en Nouvelle-Calédonie en février 2023. Mais pour tous les Calédoniens, il restera comme le haut-commissaire qui a dû faire face au 13 mai et à une violence insurrectionnelle inédite. Elisabeth Noir lui a demandé s'il était préparé à une telle situation.
Je vais répondre à votre question par une autre question. Qui est préparé à gérer une insurrection ? Sincèrement. On a dénombré à peu près 12 000 émeutiers dans le Grand Nouméa. Le Grand Nouméa, c'est immense, hein, c'est des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et à l'extérieur du Grand Nouméa, environ 20 000. C'était vraiment un mouvement insurrectionnel. Ce n'est pas des émeutes qui durent quelques jours, comme ça a pu se produire ici ou là. Je ne parle pas de la Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment un mouvement insurrectionnel, un mouvement de masse. Il y a eu plus de 300 barrages hein, qui ont été érigés en quelques jours, en quelques nuits, en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui me concerne, moi, j'ai fixé des objectifs aux forces de l'ordre. Je me suis adapté, bien évidemment, aux situations qui évoluaient de jour en jour. C'est de la conduite opérationnelle. Et j'ai fait tout cela, évidemment, avec les chefs des forces de sécurité intérieure.
Le haut-commissaire salue tous ceux qui l'ont accompagné pendant cette période et il souligne que le procureur de la République a été la clé de voûte de la réponse de l'État. Il indique d'ailleurs que les poursuites judiciaires se poursuivent. Personne n'est préparé à ça, mais on est là pour s'adapter aux situations auxquelles on est confronté, déclare Louis Lefranc.
Moi, j'ai fait ce que je devais faire. La sécurité, le maintien de l'ordre, tout ça, c'est une compétence régalienne. Et donc, avec les responsables des forces de sécurité intérieure, on a analysé ce qui se passait sur le territoire, et notamment sur le territoire du Grand Nouméa. Et la première chose que nous avons faite, c'était d'abord d'assurer la sauvegarde des points d'intérêt vitaux. D'abord faire ça. Et la seconde, ça a été de reconquérir les quartiers, notamment les quartiers du Grand Nouméa, de la ville de Nouméa et des communes périphériques. Et puis enfin, de rétablir les itinéraires qui étaient bloqués par des barrages, en commençant par des itinéraires les plus importants. C'est ça qu'on a fait. Et donc, on a progressé, mais pour cela, il fallait être en mesure d'inverser le rapport de force, c'est-à-dire être plus puissant que l'adversaire. Dès lors que nous avons été plus puissants, ce que je viens de vous décrire, très sommairement en deux phases, a pu s'accélérer, même si ça a pris du temps.
Pour faire face à l'insurrection, des renforts étaient nécessaires. Ils sont arrivés, ils ont permis de rétablir l'ordre, affirme le haut-commissaire, qui reconnaît que sa formation militaire a pu l'aider, notamment en matière de gestion du stress. Et pour lui, on a évité le pire.
Clairement, c'est qu'on a évité une guerre civile. D'un côté, il y avait des agresseurs, de l'autre, des personnes qui craignaient d'être agressées, et ça peut aller très très vite. Donc il fallait éviter que ce type de confrontation se produise, parce que alors là, ça aurait été un enchaînement périlleux, dangereux pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc moi, j'ai fait en sorte de conserver un rapport de force que je qualifierais de sain, c'est-à-dire d'un côté, les forces de sécurité intérieure, de l'autre, les émeutiers. Je l'ai expliqué à tous ceux qui devaient l'entendre. Je ne sais pas s'ils l'ont tous compris, mais je voulais surtout éviter une guerre civile. On l'a évité et je pense qu'on a évité le pire.
Presque un an après le 13 mai, le haut-commissaire ne croit pas à une nouvelle flambée de violence. Il souligne que le contexte a évolué, qu'il n'y a pas de manifestation de masse et que les formations politiques se parlent. Il y a une volonté réelle de recherche du compromis, déclare Louis Lefranc, qui ajoute que le contexte a évolué aussi parce que les émeutes ont plongé beaucoup de familles dans la misère, avec aujourd'hui plus de 14 000 personnes au chômage. Il ne croit pas à une nouvelle flambée de violence, mais dit-il, en matière d'ordre public, nous sommes prêts.
On a les forces, on a des gendarmes mobiles, on a des policiers, on a des blindés. On a beaucoup de véhicules blindés. On est certainement le territoire qui en a le plus. On a gardé les Centaures, mais on a aussi des véhicules blindés de la gendarmerie, des VBRG, des VBRG LAM. On a tout ce qu'il faut et actuellement, nous préparons un dispositif justement pour y faire face à une éventuelle ou à d'éventuelles flambées de violence. Mais sincèrement, j'y crois pas.
Le haut-commissaire interrogé également sur les conséquences économiques des émeutes et sur les aides de l'État. On voulait éviter, dit-il, que les collectivités calédoniennes se retrouvent en cessation de paiement. Et il estime que l'État a été à la hauteur avec le prêt garanti, le financement du chômage partiel ou la prise en charge de la reconstruction. Mais il pense que le redémarrage de l'économie prendra du temps.
Tout ça, évidemment, est adossé à un certain nombre de réformes. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie actuelle et passée, d'ailleurs, est complètement mobilisé sur la nécessité de conduire ces réformes. Elles sont indispensables parce qu'il va falloir, c'est mon avis personnel, hein, qu'il y ait une réduction réelle et rapide des dépenses de fonctionnement qui sont trop importantes ici. Je pense que c'est là où l'effort doit être appliqué. Alors on peut les décliner, hein, que ça embrasse toute une série de réformes, mais il faut une volonté et il faut tenir ce cap, parce qu'on ne peut pas d'un côté recevoir une aide de l'État, même sous la forme d'un PGE, un prêt garanti par l'État, et de l'autre, ne pas conduire ces réformes. C'est un peu donnant-donnant. Et puis je pense que la population calédonienne espère une relance, espère une reprise de l'activité économique, parce que c'est la clé.
Et maintenant, un apaisement et une réconciliation sont-ils possibles ? Louis Lefranc souligne que le vivre ensemble a été abîmé.
Ce qui est surtout important, c'est que les Calédoniens, après ce qui s'est passé le 13 mai, apprennent de nouveau à se faire confiance, à se pardonner aussi. Ça concerne les jeunes et les moins jeunes, ceux qui étaient dans les rangs des émeutiers, qui sont tous des Français, je le rappelle. Il y avait des adultes, Il y avait aussi des jeunes qui étaient dans les lycées, qu'on a retrouvés sur les barrages. Cette espèce de folie collective qui s'est emparée d'un grand nombre de catégories de personnes. Mais il va falloir, oui, apprendre de nouveau à se faire confiance. Et pour se faire confiance, oui, il va falloir se parler, se rencontrer. Certainement pas stopper la communication, les échanges, ce serait pire que tout. Je pense que ça, c'est le point central. C'est un accord de paix qu'il va falloir. C'est pas l'accord de Matignon-Oudinot ou de l'accord de Nouméa. Là, le lien de confiance a été... Il n'est pas rompu, mais il a été bien fragilisé.
Le haut-commissaire quittera la Nouvelle-Calédonie début mai, mais auparavant, il accueillera le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, le 29 avril, avant de passer le relais à son successeur, Jacques Billon, qu'il connaît bien et à qui il dira que pour occuper cette fonction, il faut beaucoup écouter, il faut être patient, mais aussi réactif.
Une interview de haut-commissaire Louis Lefranc qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible, je vous le rappelle, en audio et vidéo sur notre site internet, le www.rrb.fr. Il est midi et 16 minutes, on va marquer une pause dans ce journal à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Ce sont les semaines des alliances chez Creator. Jusqu'au 23 avril, profitez de moins 40% sur la deuxième alliance de votre duo. Rendez-vous dès maintenant dans l'une de vos trois boutiques Creator, Alma, 7e ou Païta. Creator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, c'est l'une des informations de la matinée. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, répond à son homologue russe Vladimir Poutine. Ce matin, le président russe avait ordonné à ses troupes un cessez-le-feu en Ukraine pendant toute la durée des fêtes de Pâques. Volodymyr Zelensky propose en réponse d'étendre ce cessez-le-feu au-delà des festivités pascales. Emmanuel Amara pour Europe 1.
Poutine viendra-t-il gâcher la Pâque ukrainienne comme les trois dernières années ? Sitôt la trêve annoncée par la Russie, l'alerte était déclenchée à Kiev. Des drones d'attaque sillonnaient le ciel de la capitale. Depuis des jours, les familles ukrainiennes préparent pourtant la Pâque orthodoxe. Ici, ce jour est célébré avec beaucoup de ferveur, comme nous l'explique Andriy.
Nous sommes un pays très religieux. J'ai le souvenir d'aller à l'église avec ma grand-mère et nous y passions la nuit entière à chanter des prières.
Les œufs ont été peints de multiples couleurs, les gâteaux de Pascha cuits. Et l'on s'apprête aujourd'hui à se retrouver en famille, comme celle de Marina, pour partager un grand repas traditionnel.
Nous allons célébrer Pâques dans ma famille et dans la famille de mon mari aussi. Partager un délicieux repas et bien sûr manger nos gâteaux de Pâques. Et faire, vous savez, une traditionnelle bataille d'œufs.
En se retrouvant pour célébrer Pâques, tous les Ukrainiens comme Mikhaël ont tous en tête le même vœu.
Je souhaite que cette fête de Pâques soit la dernière avec la guerre chez nous.
Un espoir vite douché par une attaque mortelle au sud sur la ville de Kherson. Une attaque condamnée par le président Zelensky qui signale par ailleurs des combats sur toute la ligne de front.
Emmanuel Amara, le correspondant d'Europe 1 en Ukraine. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran à propos du dossier du nucléaire iranien se sont poursuivis. Une réunion a eu lieu cette nuit pour nous et une nouvelle rencontre va avoir lieu la semaine prochaine. Les échanges visent à parvenir à un accord qui pourrait garantir un Iran sans armes nucléaires, sans sanctions internationales, mais qui permettrait à Téhéran de développer une énergie nucléaire civile. L'actualité à Métropole à présent, et revenons à quelques semaines après les faits sur l'affaire de ce maître de conférence de l'université Lyon 2 qui avait été agressé en plein cours par des étudiants qui reprochaient à ce spécialiste du Moyen-Orient d'avoir des positions islamophobes. Un mois après les faits, Fabrice Ballanche est cette fois-ci lâché par la direction de son université. Écoutez, il était l'invité d'Europe ce matin.
Que ça veut dire qu'elle justifie finalement, elle donne l'intrusion dans mon cours pour des propos supposés sur le conflit israélo-palestinien. J'aimerais bien qu'elle m'explique quels sont ces propos qui font polémique. Moi je suis géopolitologue, je produis des analyses de géopolitique, j'explique les acteurs, leurs moyens, leurs alliances, voilà. C'est pas un avis personnel que je donne, c'est une analyse géopolitique. Donc si elle confond analyse géopolitique avec avis personnel, il y a quand même un problème. Et comment après s'étonner que des étudiants fassent la confusion également ? Parce qu'en faisant ça, quand même, dans le contexte actuel explosif hein, depuis le 7 octobre, elle me met une cible dans le dos.
Et j'ajoute que 50 universitaires ont signé hier une tribune dans le Figaro, tribune en soutien à Fabrice Ballanche. Les 50 universitaires demandent la démission de la présidente de l'université Lyon 2. La femme et la fille d'un convoyeur de fonds enlevé, séquestré pendant près d'une heure et demie dans le département de l'Ain. Le père de famille était en Suisse au moment des faits. C'est l'application de vidéosurveillance de son domicile qui l'a alerté. Il a pu prévenir les secours. Sa femme et sa fille ont finalement pu être retrouvés à plus d'une centaine de kilomètres du domicile familial. Cette attaque s'inscrit dans un contexte inquiétant de recrudescence de violence contre les convoyeurs de fonds. Écoutez John Monfray du syndicat Force Ouvrière.
On sent que la violence est à son maximum en ce qui concerne le transport de fonds. On a connu plusieurs tentatives d'agression de nos fourgons blindés. Il y a eu beaucoup aussi d'agressions dans le transport de matériaux précieux. Et tous les deux mois, il y a une agression à ce niveau de ces transports-là aussi.
Et j'ajoute qu'en octobre dernier, toujours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un fourgon blindé de transport avait été attaqué en plein centre-ville de Grenoble par des hommes armés de Kalachnikov. Des violences contre les convoyeurs de fonds, des violences encore ces dernières heures contre des agents pénitentiaires avec cette agression la nuit dernière pour nous. À la maison d'arrêt de Valence, dans la Drôme, un surveillant a été visé par un jet d'eau bouillante. Charles Bouchin pour Europe 1.
Les faits se déroulent alors qu'un agent pénitentiaire et un auxiliaire d'étage distribuent le repas. Sans aucune raison apparente, un des pensionnaires jette de l'eau bouillante sur les deux hommes, comme le détaille Jérémy Moncelon, secrétaire local FO Justice au centre pénitentiaire de Valence.
Au moment où ils sont arrivés à la cellule de l'individu, il avait préparé de l'eau bouillante qu'il a balancée en direction du détenu et du collègue. Et donc le collègue en a eu plein sur l'avant-bras et a réussi à s'extraire avec le détenu, se mettre en sécurité, appeler des renforts.
Brûlé au second degré, l'agent est ensuite transporté aux urgences. Quant au détenu, il a été placé au quartier disciplinaire. Connu pour des troubles psychologiques, il avait été retrouvé avec un couteau artisanal dans la poche il y a quelques semaines. Et après cette nouvelle agression, les agents ont besoin d'être rassurés et demandent par exemple une sécurisation renforcée et des contrôles similaires à ceux d'un commissariat.
La plupart des établissements en France, on peut aller limite jusque devant la porte d'entrée sans aucun contrôle. Contrairement par exemple à une gendarmerie ou un commissariat, il y a un premier portique où on vous demande de vous présenter et après on vous ouvre la porte. Que nous, on a accès à tout le parking, à tout le domaine et après seulement on arrive à la structure.
Une semaine après de nombreuses attaques à l'extérieur des centres pénitentiaires, les actes de délinquance se déroulent également à l'intérieur des prisons.
Charles Bouchin du service police-justice d'Europe 1. Il est midi et 23 minutes, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous, dans un instant nous parlons sport.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football et la suite ce matin de la 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Trois matchs étaient au menu. Quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'était face à Aston Villa, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, poursuit son outrageuse domination sur les pelouses de Ligue 1. Ce matin, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-1 sur Le Havre, le PSG qui reste invaincu en championnat. Dans les autres matchs de la matinée, Monaco et Strasbourg se sont quittés sur un bien triste 0-0. Enfin, Marseille au Vélodrome s'est imposé 5-1 sur Montpellier. Les Montpelliérains qui filent plus que jamais vers la Ligue 2. Cette journée s'achèvera demain matin pour nous avec Lille-Auxerre, Nice-Angers, Brest-Lens, Reims-Toulouse et le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Du football au féminin également et l'Olympique Lyonnais qui s'est qualifié pour une nouvelle finale de Ligue des Champions. Cette nuit, les Lyonnaises se sont imposées 2-1 sur Arsenal. nationale. Les joueuses de Lyon qui connaîtront leur adversaire pour la finale demain matin, ce sera soit le FC Barcelone, soit les Anglaises de Chelsea. Du rugby avec là aussi une double actualité. On va commencer avec les dames qui jouaient la quatrième journée du tournoi Destination. L'équipe de France qui s'est imposée 34-21 face à l'Italie. Les Françaises qui sont deuxième au classement de ce tournoi des six nations féminin à un point de l'Angleterre. Et puis chez les messieurs, on jouait la 21e journée du top 14, le championnat de France élite. Les six premiers matchs se sont joués ce matin. Bordeaux-Bègles s'est allé l'emporter 26-22 sur la pelouse de Pau. Castres s'est imposé 32-13 sur Vannes, la lanterne rouge. Victoire de Lyon 32-23 face à Montpellier. La Rochelle a battu Bayonne 29-28. Victoire de Perpignan, 28-24 sur le Racing 92. Et puis Toulon, à Mayol, s'est imposé 31-24 sur Clermont. Demain, en clôture de cette journée, le Stade français recevra le Stade toulousain.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 est direction les rivages de la mer Rouge pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le tracé de Jeddah. C'est la cinquième manche du championnat du monde. Tôt ce matin pour nous s'est déroulée la séance de qualification de ce Grand Prix. Et une nouvelle fois, Max Verstappen sur Red Bull a fait s'affoler les chronos. Christopher Filhoc pour Europe 1.
Le quadruple champion du monde en titre, auteur d'une performance exceptionnelle. Un tour parfait, il signe la 42e pole position de sa carrière à l'issue d'une séance de qualification marquée par l'accident du Britannique Lando Norris au volant d'une McLaren qui semblait pourtant intouchable. Max Verstappen accompagné en première ligne d'Oscar Piastri. Juste derrière, on retrouve George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc, le patron de l'écurie italienne. Frédéric Vasseur ambitionne même au micro de Canal+, une place sur le podium demain.
Oui, je pense que c'est jouable. Hein. Quand on voit des courses comme Bahreïn, je pense que le rythme en course était vraiment bon. Ici, on a l'avantage que ça peut quand même doubler, qu'il y aura certainement une course un peu chaotique aussi, hein, parce qu'on avait vu l'année dernière, faut prendre les bonnes décisions de stratégie et puis on verra.
À noter la surprenante sixième place de l'Espagnol, hein, Carlos Sainz, sa meilleure qualification de la saison. Et puis dans le top 10, on retrouve notamment Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Lando Norris. On retient aussi qu'il y a aux quatre premières places, quatre écuries différentes. La promesse d'un très beau spectacle sur un tracé urbain très exigeant pour des pilotes qui frôlent les murs à plus de 250 km.
Et le départ de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite sera demain matin pour nous à 4h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Un petit mot de tennis également. Il n'y a pas eu de miracle pour Arthur Fils en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le Français n'a rien pu faire face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Défaite en 2-7 d'Arthur Fils. Score final 6-2, 6-4. Allez, quelques mots de sport sur le territoire avec une soirée de cyclisme sur piste hier au Vélodrome de Magenta. Une soirée durant laquelle Chad Charret de l'école calédonienne de vélo a battu deux records de Nouvelle-Calédonie. Le record du 500 mètres départ arrêté que détenait Hervé Salin et le record du tour de piste départ arrêté. Un record vieux de 30 ans qui était détenu jusqu'à hier soir par Olivier Roy. Et puis, autre belle performance, cette fois-ci en métropole et toujours en cyclisme sur piste. Où Louise Chavitz, s'est illustrée sur le 200 mètres lancé. Elle a réalisé le meilleur temps des qualifications et s'est classée deuxième du tournoi final du Grand Prix de vitesse de l'Oudéac dans les Côtes d'Armor. Et puis rappelons qu'en haltérophilie, trois juniors se rendront les 31 mai 1er juin prochains à Wittenheim, plaie de Mulhouse en Alsace pour le championnat de France d'haltérophilie. Ils ont atteint les minima requis lors de la finale du championnat territorial qui se déroulait hier à Boulary dans la catégorie senior. Demi Dabin et Sylvain Duclos sont sacrés champions, mais ils n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour les championnats de France.